oriental. J'ai réfuté totalement ce qui
se passe. Moi, c'est l'île de Lubumbashi au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux, la clinique de l'éducation, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour et merci de vous joindre à nous pour cet échange d'en parole aux auditeurs, votre magazine d'échange citoyen. Rebondissement à l'Assemblée nationale la semaine dernière de la question sur la situation de la connexion de la RDC au câble international sous-marin de la télécommunication à fibre optique. Les députés ont formulé des recommandations à la suite du rapport de la commission d'enquête parlementaire sur cette question. Ce rapport fait état de la dilapidation des fonds de l'État, occasionnant ainsi un retard pour le déploiement de tout son réseau interne en fibre optique, pourtant très attendu par les points d'atterrage des 6 pays voisins, notamment la Tanzanie, le Burundi, le Rwanda, l'Ouganda, la République centrafricaine et le Soudan. Comment commentez-vous cette actualité? 081-890-6315, c'est le numéro d'appel pour intervenir en direct dans cette émission mise en monde par Jean-Claude Siala. Julie Pesa sur la réalisation, J.R. Lungemboué à la coordination et Pierrot Elamey, je vous la présente sous la supervision de Léonard Moulamba. Fidèles auditeurs, bienvenue à tous.
Pour participer à Parole aux auditeurs, 081-890-6315 ou par internet pa@radiotapis.net. Parole aux auditeurs, Pierrot Elamey.
La connexion de la RDC au câble international sous-marin de la télécommunication en fibre optique devrait améliorer l'accès à l'Internet, mais pourquoi pas aussi la communication téléphonique, tout cela dans le but de mettre la RDC sur les pieds d'État moderne en termes de télécommunications. Où en sommes-nous aujourd'hui? Beaucoup d'encre et de salive ont coulé, les débats à l'Assemblée nationale autour de ce qui a été fait, mais quelles sont les faiblesses, mais qu'est-ce qui doit être fait aussi pour améliorer ces projets, permettent à la RDC de se mettre au même niveau que d'autres pays qui étaient concernés et qui sont concernés par ces projets de connexion au câble de la fibre optique. Nous allons en parler dans cette émission. Nous avons associé à cet échange M. Emery Okundi, député national, auteur de la question orale avec débat à l'Assemblée nationale sur la non-connexion de la RDC à la fibre optique. Mais nous aurons aussi une intervention à partir de Paris en France de l'ingénieur Kabeya Kachama, consultant en télécommunication, mais nous écouterons aussi un point de vue de l'ancien ministre des Postes et Téléphones et Télécommunications et Nouvelles Technologies, M. Kinki Mulumba. Voilà, bienvenue dans cette émission. Vous avez besoin d'intervenir en direct pour apporter votre contribution 081-890-6315. Emery Okundi, vous êtes avec nous dans ce studio. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour.
Bonjour, Pierrot.
Et pourquoi la question de la fibre optique fait-elle autant couler, autant de salive et d'encre? Et on a vu aussi la grandeur des débats au niveau de l'Assemblée nationale.
Eh bien, je vous remercie pour la question, Pierrot. Écoute, vous vous souviendrez qu'il y a eu près de 14 pays africains qui se sont retrouvés en Afrique du Sud pour se faire connecter à cette technologie de pointe. Parmi ces 14 pays, se retrouvait la République démocratique du Congo, notre pays. Mais grande a été notre surprise de voir que les 13 pays africains autres se sont connectés, sauf la République démocratique du Congo. C'est ainsi que nous avions eu cette idée d'user de nos moyens de contrôle pour en savoir plus. Et nous avions initié le 6 juin 2012 une question orale avec débat adressée à Monsieur le ministre de Pétentic pour en savoir plus. Nous lui avions posé la question de savoir pourquoi la République démocratique du Congo, notre pays, n'a pas pu être connectée à cette technologie de pointe. Et en répondant à cette question orale avec débat, que Monsieur le ministre de l'époque a fait des révélations troublantes. Il nous a dit que si nous n'avions pas été connectés, c'est parce que la station d'atterrage de Mwanda n'était pas encore achevée. Mm-hmm. Et nous avions poussé des réflexions beaucoup plus loin. Et pourquoi la station n'était pas achevée? Et pourtant, vous vous êtes retrouvé en Afrique du Sud. Et monsieur le ministre nous répondra, et il a fait des révélations troublantes dont je ne peux donner que deux compte tenu du temps. La première révélation, c'est que le ministre nous a dit que le marché avait été, les marchés de construction des points d'atterrage avaient été attribués à un touriste, c'est ça le terme que le ministre a utilisé, à un touriste indien et qui n'avait comme adresse qu'un numéro de téléphone et qui, après avoir gagné le marché, a disparu dans la nature. La deuxième révélation, monsieur le ministre nous avait dit qu'il y avait ensuite un monsieur Martin Kalala qui s'est pointé à la BIEC et qui a touché au compte de la SPT, qui a touché une bagatelle somme de 3 millions de dollars américains, et lorsqu'il a été appréhendé, il n'a restitué que 300 000 dollars. Devant de telles révélations, eh bien, nous avions conclu que monsieur le président de l'Assemblée nationale, conformément à notre règlement intérieur, nous aimerions en tout cas la mise sur pied d'une commission d'enquête parlementaire pour recueillir les éléments d'information les plus complets sur ces dossiers.
Mais alors, les choses avaient évolué jusqu'à la construction de la station d'atterrage, et puis il y a eu aussi l'inauguration, je crois. Mais après, on s'est rendu compte qu'au niveau technique, on pourra avoir un avis technique tout à l'heure, que les choses n'ont pas pu marcher. Est-ce qu'au niveau du Parlement, vous avez su pourquoi, malgré qu'il y a eu quand même l'inauguration de la station d'atterrage, on a vu le chef de l'État s'y rendre avec les membres du gouvernement, mais la situation a semblé toujours ne pas évoluer sur les plans de terrain. Il y a eu des réponses autour de ces questions.
Effectivement, la commission a bâti un travail, en tout cas exemplaire, un travail de qualité, et la commission reconnaît même qu'il y a eu, il y a existence, en tout cas, des lacunes techniques dans l'infrastructure construite par la phase 1. Et donc, il y a des problèmes très sérieux. Même au niveau de la qualité du câble qui a été installé, Pierrot, la commission le dit très bien, la commission donne même à la page 12 le câble qui allait être installé. On a installé un câble qui n'est pas approprié. Et vous savez que le câble, il est souterrain. Mais le câble qui a été utilisé est un câble aérien, que l'on utilise au niveau aérien. Et donc, ça pose des problèmes. Au niveau même du prix, et c'est là où le bât vraiment blesse, et c'est là où ça nous a choqués en tant qu'élus du peuple, parce que nous sommes supposés faire en sorte qu'il y ait la bonne gouvernance dans notre pays. Le câble de première qualité de la fibre optique coûte, en tout cas dans les normes internationales, coûte 20 000 dollars le kilomètre. Alors, lorsque vous regardez le câble qui a été installé, qui n'est pas un câble approprié, on a surfacturé l'État. On a surfacturé à la hauteur de 52 000 dollars le kilomètre. Et donc, vous voyez que dans les jours à venir, si on ne rectifie pas ces erreurs, si on n'améliore pas ces lacunes, on ne rectifie pas ces lacunes techniques, eh bien, nous risquons de connaître des problèmes.
Voilà, on va revenir à vous parce qu'il y a d'abord des implications politiques dans ces projets, mais aussi des implications techniques qu'on pourra voir avec les différents intervenants. Mais à ce niveau, on sait qu'il y a eu la question autour d'abord du retard enregistré, après il y a eu la station qui a été construite. Il y a beaucoup d'éléments, si nous avons suivi les débats à l'Assemblée nationale, autour du rapport de la commission, on s'est rendu compte qu'il y a eu des surenchères, des surfacturations, de l'argent, des dilapidations. Voilà toutes ces questions, mais comment on peut s'en sortir aujourd'hui? On va aborder ces questions au 081-890-6315.
Parole aux auditeurs.
Maître Sonville, vous êtes à Lubumbashi, au Katanga. Bonjour.
Bonjour, monsieur Pierre Lamézi. Bonjour à notre invité. Bonjour à tous les millions d'auditeurs de la radio Kati.
Voilà, vous avez suivi, nous avons commencé, oui, nous avons accompagné les projets de la fibre optique depuis le début. On a eu beaucoup d'émissions, on a reçu beaucoup d'experts, y compris deux fois le ministre de Poste, Téléphone et Télécommunications de cette période. Et le souci, c'est de voir comment toute la communauté peut être impliquée dans la compréhension de ces projets. Alors, à ce niveau du débat, quel peut être votre point de vue, Maître Sonville?
En tout cas, d'abord, je remercie le gouvernement du fait que le gouvernement a eu quand même cette tâche-là de doter la population d'une bonne qualité de communication. Mais là où je ne suis pas d'accord avec le gouvernement, c'est le ministre en charge de cette activité, à ce moment, M. Tiffon, Ikaï Mulumba, je parle d'abord des allégations de votre invité, M. Okonji, que je salue en passant, M. Okonji, il dit que le ministre de prendre en charge, il a confié à un sujet indien dont l'adresse n'était pas n'était que le numéro du téléphone. Mais, monsieur Pirou, un ministre qui confie un marché à un indien dont l'adresse n'était que le téléphone, ça se fait où? Ça, c'est une responsabilité notoire. Ça, c'est la première chose. Si je vais suivre les allégations de monsieur Okonji, il dit que la meilleure qualité coûte au moins 20 000 dollars. Il y a une surfacturation, 52 000 dollars. Tout ça, ce sont les preuves probantes qui prouve que l'ex-ministre a commis des casses. Il n'a pas encore évolué, monsieur Pierrot et la musique. Pour un point d'altérage qui a été construit dans d'autres chiens à la hauteur, qui est à la hauteur de 4 millions de dollars. Mais, d'après les recherches que nous avons faites, la SPT a à elle seule donné au moins 12 millions, de près de 12 millions de dollars à la BIAC. Le gouvernement a financé à la hauteur de 17 millions de dollars américains. Vous comprenez un peu. Et Exim Bank a encore financé à la hauteur de 32 millions de dollars américains. Or, dans des pays où cela se fait à haute qualité, c'est 4 millions de dollars. Vous voyez comment est-ce qu'on joue avec l'argent du quotidien des Congolais. En tout cas, M. Pierrot, moi je dirais que M. Tintin Mirumba, et du fait qu'il a même été permuté de son poste pour le poste de ministre à relation avec le Parlement, c'est parce qu'il est tenté dans le détournement.
Alors, oui, Maître Sonville, vous vous rappellerez, d'ailleurs, on avait reçu le ministre quand il a été nommé, je crois que le projet avait déjà démarré, peut-être que le député pourra nous donner des précisions pour dire que lui aussi, vous vous rappellerez, quand nous l'avons reçu dans la parole, il avait donné des précisions pour dire qu'il y avait des démarches qui avaient commencé en amont et que lui est venu trouver cette situation. Par exemple, la situation de l'Indien qui n'avait pas le téléphone, il paraîtrait que si le député peut vous répondre rapidement, le ministre a dit qu'il avait trouvé ces dossiers, que le marché a été donné à un Indien. Ce n'est pas lui qui avait conclu avec l'Indien, mais il avait déjà trouvé les dossiers sur la table.
Effectivement.
Oui, s'il vous plaît, mettre son
vie. Il avait confié ce dossier à l'Indien. Il y a une continuité d'administration. C'est lui qui avait confié ce dossier à l'Indien. Lui aussi a fallu la continuer. Qu'est-ce qu'il a fait? Puisque lui, en tant que le ministre remplaçant, c'est l'autre qui avait confié le dossier, il devait initier une action en justice contre le l'Indien là.
Si on vous suit mettre son ville, le souci maintenant c'est de pouvoir d'abord établir le responsabilités. Je crois bien que la réalisation, oui, voilà. Mais écoutez, la réalisation va nous permettre, une fois de plus, d'avoir la réponse plus rapidement du professeur Kinké Mulumba, qui, en ces temps-là, était ministre des Postes, Téléphone et Télécommunications. Alors, on lui avait d'ailleurs reçu plusieurs fois la parole aux auditeurs. On peut l'écouter aussi rapidement par rapport à cette question, parce que vous avez souhaité qu'on puisse l'entendre un peu plus rapidement.
C'est une suite logique d'une interpellation, je dirais mieux d'une question orale avec débat que l'honorable Okonji Emery m'avait adressée aussitôt après ma nomination comme ministre de PTLTIC. À la suite de cette question orale avec débat portant sur le retard pris par notre pays dans la connexion au câble international WACS, eh bien, j'avais été amené à répondre à des questions. Alors que la totalité des pays avaient donc eu leur connexion, basculé dans le numérique par le WACS, le Congo était le grand absent. Alors, dans le cadre de la continuité des services de l'État, j'ai donc répondu à ces questions. Je pense avoir éclairé la lanterne des députés, avoir donné des informations, vous vous rappellerez que j'avais dit qu'il y avait un touriste asiatique arrivé juste avec un attaché thèse et qui s'est fait de l'argent, qui a construit une baraque à Mwanda qui a été détruite par le chef. Et donc, à la place, on a construit un ouvrage par Dorico qui a coûté, si mes souvenirs sont bons, 4 millions de dollars environ, au lieu de 13 millions qu'on réclamait à l'époque. Et je pense avoir ouvert tous les livres de ce dossier fibre optique, et c'est à la suite de ça que les députés avait mis en place une commission d'enquête. Et cette commission s'est rendue à mon cabinet, m'a interrogé, et bien sûr, je l'ai réorienté vers la SCPT, qui seule et seule était maîtresse du dossier. Je puis vous assurer, alors que je me suis engagé totalement dans ce dossier, avait voulu faire un triomphe au Congo, parce que ça marquait aussi le départ du secrétaire général de l'UIT, qui était venu ici. Comme vous savez aussi, le secrétaire général de l'Union africaine des télécommunications était venu ici. Nous avons réussi à payer toutes les dettes qu'on devait à ces deux organismes. Et donc, le Congo a cessé d'être le pouvoir. Ce que je voulais vous dire, c'est que je n'ai jamais vu ni un dollar de ce dossier qui s'était déroulé.
Voilà. Voilà, si vous avez suivi Maître Sonville, les éléments des réponses que nous avons eues du ministre pour dire que les dossiers ont été très clairs, alors parce que les dossiers se trouvent au niveau de l'Assemblée nationale, il y a des recommandations, on pourra passer voir ces recommandations. Mais en attendant, retournons à Kinshasa rapidement pour écouter ingénieur Gaston. Vous êtes avec nous, ingénieur, parce que ces dossiers impliquent des aspects politiques, des aspects techniques. Vous êtes ingénieur, mais nous avons besoin de pouvoir améliorer par rapport aux faiblesses qu'on qu'est-ce qui doit être fait pour enfin réussir à ce qu'il a été réussi à ces projets de la fibre optique, ingénieur Gaston.
Merci pour la parole, Radio Capi. En tant qu'ingénieur, nous, quand il y a un projet exécuté, on commence d'abord par voir les causes et puis poser des diagnostics à la fin.
Uh-huh.
Donc je vais commencer pour ne pas me répéter. Mais je vous demanderai un peu de m'accorder le temps. Vous avez un de mes demeures représentants qui est sur le plateau, c'est un élu, donc j'ai la confiance que j'aurai la parole. Abondamment. Je commence d'abord par vos députés. La question a été soulevée au Parlement. Ils ont le pouvoir de faire partir un ministre, mais cela n'a pas été fait. Toutes ces narrations, tout ce qu'ils sont en train de dire au peuple, nous suivons. Mais ce ne sont que du théâtre où les acteurs ont été choisis par les spectateurs. Monsieur Okundji, il est là. Aujourd'hui, nous savons qu'il ne siège pas. Mais la finalité de tout ce qu'ils font comme démarche, ça aboutit à quoi ? À des enveloppes. Je vais revenir au ministre. Quand le ministre dit qu'il n'a réussi aucun point dans tout ça, c'est irresponsable de sa part. C'est irresponsable. Curieusement, dans notre pays, il est toujours ministre. Sous d'autres cieux, M. Kinkei devait même fuir le pays. Au lieu d'être en prison, il devait fuir le pays. Ça, je m'adresse personnellement à lui. Ça fait honte. Et en quoi il est ministre si un dossier de cette grande ampleur peut lui passer comme ça? Je reviens au chef de l'État qui nous a promis lors de son discours qu'il devait nommer un conseiller spécial de lutte contre, de lutter contre la corruption. Jusqu'à là, nous l'attendons. Ce sont des dossiers pareils qui peuvent propulser le chef de l'État, même s'il revenait après son dernier mandat ici, à être un jour élu. On apprend que M. Kinkei, qui a juste de cet argent, il se plaît même de dire qu'il est Toton Nanoyote, mais Moutou Toton Nanoyote, on le met en prison. Et ça peut être un bon exemple pour le pays. Mais quand vous dites qu'on peut confier un marché d'un pays à un sujet indien, mais c'est bien, ça ne sert à rien. Même nous, quand il y a des appels d'offres pour gagner un marché, nous passons, nous déposons, non. Nous achetons des cahiers de charges. On fait l'appel d'offres publiques. Comment on peut confier un tel un grand marché à un sujet
voilà. Cela veut dire, ingénieur Gaston, qu'il y a des problèmes très sérieux autour de ces dossiers. Il faudrait voir les responsabilités sont partagées. Vous avez évoqué.
Moi, je voulais donner une fixe de solution pour moi.
Oui, allez-y rapidement, parce qu'il y a beaucoup de gens qui appellent les sujets extrêmement intéressants.
J'ai résumé ça en trois points.
Oui, allez-y.
Le premier point, c'est celui-ci. C'est que les Congolais me suivent clairement. Un peuple mérite le chef qui le dirige. Donc, si nous continuons à assumer toutes ces bavures, c'est que nous méritons des dirigeants comme M. Kinkei, comme ces députés-là. Deuxième chose, je veux dire ceci, le changement commence par la tête. Quand la tête change, la base peut changer. Mais je rappelle au peuple congolais que le soulèvement commence par la base. Quand vous avez la pyramide, pour inverser la pyramide, on n'appuie pas la tête. C'est la base.
Voilà, on vous a compris, on comprend votre souci, mais nous devons aussi quand même mesurer la grandeur, l'ampleur de mots que nous utilisons pour cette chance citoyenne. On n'a pas ici la possibilité d'accuser les gens autour de ce qui ont détourné l'argent et comment ils peuvent se défendre. C'est au niveau de la justice de faire un travail. Si on se rend compte qu'il y a des faits avérés pour poursuivre les gens, ça c'est au niveau de la justice. Mais si je vous écoute, vous avez attaqué les députés pour dire que malgré les questions orales, malgré les interpellations, les gens sont toujours là, ils travaillent, il n'y a pas un problème. Mais vous avez aussi accusé au niveau de la responsabilité du ministre que vous avez suivi tout à l'heure pour dire mais comment pouvait-il accepter en son temps de trouver sur son dossier, sur la table, quelqu'un qui a pu un sujet sans référence, toucher autant d'argent pour les comptes des trésors publics et laisser ce dossier sans pourtant poursuivre les gens. Et vous attaquez aussi la population, vous estimez qu'il faut aller au changement. Mais vous avez aussi évoqué le rôle du conseil spécial du chef de l'État en matière de lutte contre la corruption, le blanchiment d'argent, qu'il peut saisir de ce dossier, voir comment l'orienter. Merci beaucoup. Nous avons Maître Timothée qui est à Luisa, dans la province du Kasaï occidental. Maître Timothée, bonjour. Et vous êtes juriste, nous avons dit que cette question elle est transversale, il y a la politique, il y a aussi du côté technique pour permettre à la RDC de se connecter à cette fibre optique, mais il y a aussi des implications juridiques parce que les députés ont souhaité que ceux qui ont pu tremper dans la gestion autour de ces projets soient poursuivis. Alors concrètement, pour permettre à la RDC de s'en sortir dans ces dossiers et surtout arriver vraiment à réussir ces projets, qu'est-ce qui doit être fait concrètement?
Et moi, d'abord, je dois commencer par dire que ceux qui existent sur ce projet doivent avoir le sens patriotique, c'est-à-dire faire en sorte que tous ceux qui sont en train de faire, ils le font au nom de l'État. C'est-à-dire prendre d'abord la responsabilité et pour les défendre l'intérêt national. Parce que quand on exécute les projets qui sont là pour le développement du pays, ça profite alors aux particuliers. Tous ceux qui sont en train d'exécuter ce projet, on sait que c'est un réussite et l'État continue toujours à être pauvre. Alors moi, je préfère assez que les personnes puissent d'abord avoir ce sens patriotique afin qu'ils puissent engager toutes leurs responsabilités et qu'ils puissent exécuter les travaux comme il se doit. Parce qu'on parle toujours de dilapidation à chaque instant, alors on n'a jamais suivi une personne qui a été déférée devant une exécution pour comparaître. Mais si c'était par exemple que c'était d'autres personnes qui faisaient ce genre de choses, c'est toujours la justice qui s'en occupe d'eux. Alors que les membres du gouvernement qui exécutent les projets concernant le développement de notre pays, ils sont toujours à l'aise et c'est sans problème. Moi, je préfère parce que nous tous attendons de la connexion de cette fibre optique pour que ça nous profite. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez, dans notre pays, avec la connexion de la téléphonie mobile, il y a suffisamment de perturbations parce que la technologie n'est pas adaptée. Nous utilisons toujours l'ancienne technologie. Raison pour laquelle nous appelons à nos compatriotes qui exécutent ce projet à s'approprier d'abord, à voir dans l'air que nous sommes en train de faire ça pour défendre l'intérêt national. Aujourd'hui, nous disons que la terre devient un grand village. Alors nous devons aussi être parmi ces grands villages seulement si nous avons des technologies appropriées dans le monde, c'est-à-dire adapter toute notre technologie par rapport à l'évolution scientifique. Alors, ce que nos compatriotes font, c'est toujours pour réguler les pays et rester toujours dans la
voilà. Position. Merci beaucoup, Maître Timothée. Vous avez vraiment modéré votre intervention en estimant que ce sujet est très passionnant parce qu'il touche à l'intérêt de la haute technologie, mais aussi en termes des millions d'argent, des dollars. Mais vous pensez que si les gens privilégient plus l'intérêt national, ils peuvent arriver vraiment à s'investir pour que les fonds qui sont à disposition publique puissent être réutilisés pour l'intérêt plutôt que pour de personnes, c'est ça. Si vous avez conseillé les uns et les autres au sens de la conscience pour arriver vraiment à permettre à la RDC d'améliorer la qualité de cette technologie. Merci beaucoup, Patrick. Vous êtes à Kikwit dans la province de Bandundu. Patrick, alors pour vous, qu'est-ce qui doit être fait à ce niveau pour permettre à ce que ces projets puissent aboutir sans beaucoup de difficultés comme on est en train d'en évoquer dans cette émission?
Oui, bonjour Monsieur Junior, bonjour à l'Institut et à tous les autres auditeurs. Je voulais un peu revenir à ce que Monsieur l'ingénieur Gaston a dit. Je commence d'abord à louer son courage et puis d'avoir dit ce qu'il faut dire. Moi, je voulais un peu revenir sur un mécontentement. C'est bien de pouvoir toujours initier des projets, mais je reviens un peu sur l'aspect du suivi. Le gouvernement initie des projets un peu partout, c'est bien, mais qu'est-ce qu'il fait? Comment il suit ses projets? Vous l'avez dit il y a, je pense, 4 jours, au cours de cette semaine, dans l'un de vos journaux, qu'il y avait un détournement de plus de 2 millions ou 20 millions, comme ça, je ne maîtrise plus, pour, dans ces sens de fibre optique. Mais qu'est-ce qu'on fait de ces gens? Les députés qui sont là à présent, il y a cité le nom de quelqu'un, je vois encore. Qu'est-ce qu'on a fait de ces gens? La justice, vous venez de dire que c'est la justice qui va s'occuper de l'économie de justice au Congo. On arrête les gens pour des futilités alors que les problèmes urgents sont là. Tout le monde les voit. Qu'est-ce qu'on fait? Je voulais que les députés qui m'excusent de prendre un tel ton, mais qui nous expliquent? Parce que quand ils élèvent des motions là, et personne ne s'en occupe, on dirait qu'il n'y avait rien de sérieux. Donc, c'est un peu la lignée de M. Gaston.
Voilà, merci beaucoup. Patrice, vous estimez que le problème aujourd'hui, c'est le suivi. On peut initier des projets au niveau du gouvernement. On octroie des fonds aux gens pour gérer certains projets, mais il n'y a pas de suivi. Au niveau du Parlement, il y a la responsabilité pour savoir qu'est-ce qu'on fait de tout ce qu'on dénonce. Quel est le travail de la justice? Voilà autant de questions que vous vous posez. Nous allons le poser aussi tout à l'heure à notre invité. 081-890-63-15.
Parole aux auditeurs.
Emejou Koundi, vous êtes député national. Tout à l'heure, il y a une question sur le plan technique. On va avoir un ingénieur, un spécialiste en télécommunication qui va nous dire les implications techniques de faiblesse dans ce projet, mais qu'est-ce qui doit être fait pour améliorer. Mais nous revenons sur le plan politique et juridique parce que les auditeurs, ils ne font pas des cadeaux. Que ce soit vous, les députés, qui, dans vos commissions, vous découvrez qu'il y a des détournements, il y a des gens qui ont mis la main dans les trésors publics, mais à la fin, les gens disent, mais bon, écoutez, l'émotion, les interpellations, il n'y a rien. La justice ne poursuit pas les gens. Les gens voudraient voir dans un dossier comme celui-ci, les gens se réveiller parce qu'il s'agit de beaucoup d'argent quand même.
Tout à fait, Géraud. Je remercie les auditeurs qui nous ont posé des questions très pertinentes. Vous savez, nous sommes dans un pays qui se veut démocratique. Et chaque institution a un rôle constitutionnel qui doit jouer. Et donc, lorsqu'il y a un problème qui surgit, nous devons respecter les règles, les normes, les repères en la matière pour ne pas tomber dans l'arbitraire. L'institution à laquelle moi j'appartiens a une mission constitutionnelle de légiférer et de contrôler. Mmh. Et que la Constitution a donné clairement même ses moyens de contrôle. C'est, si j'ai usé de la question orale avec débat, c'est un des moyens de contrôle que me donne la Constitution et le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Mais non, je ne sais pas si l'ingénieur Gaston a lu les rapports. Les rapports est éloquents et démontrent à suffisance les détournements. Et l'Assemblée nationale a une procédure pour déférer même les gens au niveau de la justice. C'est là que nous sommes. Il y a eu un débat. Et donc, les honorables députés ont donné leur amélioration des recommandations qui ont été faites par la commission d'enquête parlementaire. Et dès que nous terminons cette étape-là, eh bien, l'Assemblée nationale sera devant ses responsabilités de déférer ces gens-là devant les cours et tribunaux. Mais j'aimerais souligner une chose. Toutes les démarches que nous sommes en train de mener, c'est pourquoi? Eh bien, c'est pour qu'on arrive dans notre pays à la bonne gouvernance, à la gestion transparente de la chose publique. Parce que si vous allez même à la page 14 du rapport, eh bien, il y a toute une liste avec les noms des personnes qui ont touché même l'argent que la SPT a consenti comme prêt à la BIAC. Mm-hmm. Et il y a des gens qui sont connus et qui sont là dans des postes de responsabilité. C'est ça qui choque. Une personne qui a été attrapée, la main dans le sac, comme étant détourneur de deniers publics, détourneur de l'argent de l'État, eh bien, la justice doit s'en occuper pour qu'il y ait des sanctions, afin que nous puissions mettre fin
à l'impunité.
Mais pourquoi vous avez travaillé sur ça? Vous avez suivi le ministre qui a dit, oui, voilà, il avait répondu à la question, il n'a pas touché l'argent, on ne va pas entrer dans le jugement des valeurs parce qu'il sera difficile. C'est une question qui touche à comment l'argent a surgilé. Mais est-ce qu'il y a eu des faiblesses au niveau du ministère des PNT dans les temps, en ce qui concerne la responsabilité dans la continuation des activités? Pour dire, par exemple, voilà, le ministère a trouvé qu'il y avait déjà l'argent qui était sorti, il y a eu des faiblesses, il y a eu de la mafia, mais quelle a été la faiblesse dans cette continuité-là pour dire aujourd'hui comment on peut établir ses responsabilités? Parce que vous avez suivi, les auditeurs ont pu charger le ministre qui était là pendant cette période, alors qu'il y a des choses qu'il lui avait trouvées.
Effectivement, et je suis d'accord avec lui, il a trouvé la situation, et donc c'est par le principe de la continuité des affaires de l'État qu'il a répondu à la question. Je suis tout à fait d'accord avec lui. Mais puisqu'il y a eu des gars, puisqu'il y a eu des gens qui ont détourné, eh bien, le ministre devait à cette compétence de les déférer devant le cours des tribunaux. Et donc, il y a eu beaucoup de faiblesses parce que, c'est là où je souligne, le fait que ceux-mêmes qui ont détourné ont été promus dans d'autres fonctions d'État. Et donc, ce sont des faiblesses. Le fait qu'on devait utiliser le câble souterrain de première qualité et qu'on a utilisé, on a utilisé un câble aérien qui n'est pas approprié. C'est une faiblesse, ce sont des lacunes graves. Le fait qu'on n'a pas pu construire ces points d'atterrage à temps, et pourtant il y a eu beaucoup d'argent que l'on a dépensé pour ça, c'est une faiblesse. Le fait que l'on n'a pas été connecté à la date prévue, mais c'est un manque à gagner. La République perd beaucoup d'argent, même en ce qui concerne les appels à temps qui un réseau mafieux est en train de transformer à travers des SIM box en appels locaux. La République, la SPT perd chaque mois à peu près plus ou moins 5 millions de dollars. Mais ce sont des faiblesses. Et donc, il y a eu beaucoup de faiblesses qu'il faudrait rectifier le plus rapidement possible les tirs.
C'est ça, ce niveau-là. Je crois bien qu'il y a un ingénieur Kabeyan Kachama qui est à Paris. Il est consultant en télécommunications. Lui qui a même publié dernièrement sur les faiblesses du projet fibre optique et qu'est-ce qui doit être fait pour améliorer. Et là, mais si la réalisation peut nous permettre de suivre, parce qu'il y a certainement des réponses que vous avez évoquées tout à l'heure, pour que le ministre que nous avons contacté en début de cette émission place encore un mot par rapport à ça, parce qu'il s'est plusieurs fois, on est revenu là-dessus sous sa responsabilité, et comme ça on va écouter un avis technique et écouter aussi Xavier qui est à Kikwita.
Plus de 5 millions de dollars construit quoi? Il y a plusieurs choses là, je crois. Il y a le point d'atterrage, qui est, comme je l'appelais à l'époque, super logène à Mwanda, et il y a la ligne de câble à fibre optique qui va de Mwanda à Kinshasa, en jouant effectivement 700 km, et de Kinshasa à Kasumanessa. Ça, c'est la première partie du backbone national. Et puis, il y a le reste. Alors, si vous me dites 5 millions de dollars, est-ce qu'il s'agit de la ligne allant de Mwanda à Kinshasa? Si c'est 5 millions de dollars, moi, je ne connais pas le chiffre, parce que c'est un dossier qui avait été négocié avant que je ne vienne. Oui, son poste, pas la vie. Son poste, Mongo. Je sais que, effectivement, il y avait un dossier, parce que en arrivant, j'ai vu ça, il y avait un dossier de 13 millions de dollars que la BIAC avait effectivement fini par décaisser au bénéfice de la SCPT et que l'État congolais avait financé parce que la SCPT n'avait pas. Effectivement, c'était de la sous-facturation. Je l'avais dit. Non seulement il y avait de la sous-facturation sur le 13 millions de dollars, mais également, aussitôt que le dossier a été approuvé dans la journée, et bien on a sorti 3 millions de dollars qu'on a remis à un quidam qui n'était porteur que d'un permis de conduire. Et tout ça, je l'avais dit. Donc, j'imagine que je n'ai pas suivi personnellement le débat au Parlement, et j'imagine que le travail des parlementaires s'est basé sur ce que j'avais dit, et j'ai posé des questions à ceux qui avaient suivi le débat, et j'ai pu comprendre que les débats étaient clairs comme l'eau de roche. Comment les pays ne pas connaître? Nous avons la 3G, et si nous avons la 3G et que vous pouvez checker sur les réseaux sociaux, c'est pas qu'il y a la fibre optique. Si vous pouvez aujourd'hui suivre YouTube avec la même vitesse qu'à Paris, Washington, à New York, parce qu'il y a la fibre optique, voilà, c'est ce que j'appelais la vitesse lumière. Donc, nous sommes, le Congo est connecté, comme l'international ou WAP. Et donc, le Congo a basculé dans l'économie numérique, c'est clair. Maintenant, combien est-ce que le Congo a payé pour en arriver à ça? Ça, c'est un autre dossier qui est un dossier de la SCPT, et seul SCPT.
Voilà, il y a voilà, autant de précisions. On va vous écouter, ingénieur Kabeyan Kachamon. Vous êtes à Paris, en France. Vous avez suivi le point de précision avec le ministre concerné du temps de ces projets, la RDC connectée, il y a l'amélioration de la qualité. Voilà, selon le propos du ministre, mais le projet devrait continuer pour permettre aussi aux autres pays de la sous-région, les métropoles de la RDC, de pouvoir se connecter à ces câbles. Ça n'a pas été le cas. Ingénieur Kabeyan Kachamon, alors vous êtes consultant en télécommunication. Pour vous, quelles ont été les faiblesses de ces projets fibre optique en RDC avant que nous puissions passer aux pistes de solutions pour améliorer?
Bonjour Pierrot, bonjour l'honorable Kondi et aux auditeurs de Radio Kati. Je tiens d'abord à rappeler que j'ai eu à faire le débat avec le ministre Tinke Mulumba à l'époque lors du démarrage du projet. Et à l'honorable Kondi, j'espère qu'il avait reçu mes différentes publications que j'avais pris soin de lui envoyer dans sa boîte mail. J'espère que il avait eu le temps de le parcourir. Donc, j'ai publié un premier article au mois de janvier 2010, au début du lancement du projet, pour attirer l'attention des autorités politiques, surtout parce que le problème de l'OCPT ne date pas d'aujourd'hui, ça date depuis très longtemps. Il y a un problème politique au niveau de l'OCPT, c'est-à-dire la volonté politique pour faire de ce secteur un levier de développement économique. La situation que nous vivons aujourd'hui avec la fibre optique ne date pas d'aujourd'hui. J'avais rappelé lors du débat avec le ministre Tinke Mulumba ce qu'a été le projet CCR5 Kinshasa Lubumbashi, qui n'avait vécu que le jour d'inauguration entre le président Mobutu et le président Giscard d'Estaing. Le Congo est en train de rembourser cette dette-là sans en avoir à amorti. Donc, j'avais parlé de l'éléphant blanc, bien que Tinke Mulumba avait estimé que ce n'était pas très encourageant pour le pays, mais c'était la réalité. La même situation, nous l'avons connue avec les centraux téléphoniques de Goma, parce que j'avais effectué une tournée. Je suis en passant, je signale que je suis un ancien cadre de l'OCPT qui était envoyé en formation. Donc, j'avais effectué une tournée en province. Il y avait des centraux automatiques qui devaient être installés à Goma, à Kananga et à Mbujima, qui n'ont jamais été installés parce que ceux qui avaient gagné le marché, soi-disant gagné le marché, à qui on avait attribué les marchés de construction des locaux techniques, n'avaient jamais construit ces locaux. Ils ont bouffé l'argent, ils n'ont jamais été inquiétés parce que tous, ils étaient soit membres du bureau politique ou membres du comité central. Cette situation continue jusqu'à aujourd'hui et mon article de 2010, j'attirais l'attention des autorités du pays pour que qu'on puisse prendre les précautions afin d'éviter que le pays et l'entreprise publique ne connaissent les situations antérieures. La crise dans la gestion des projets de l'OCPT passe par la distinction entre le maître d'ouvrage, qui est l'État, et le maître d'œuvre, qui est l'organe technique, donc l'OCPT. Il y a souvent ces conflits-là depuis très longtemps, tant qu'on n'aura pas c'est la clarification entre les responsabilités du ministère de tutelle avec ce qui gère au quotidien l'entreprise. Nous vivrons la même situation. On a bloqué le développement de l'OMPGZ pour permettre à Télécel de se développer et c'était les autorités congolaises qui étaient à la base de tout ça. Donc, il y a un problème de manque de volonté politique pour faire de ce secteur un levier du développement économique. Dans cet article, j'ai fait voir l'impact économique, social et scientifique de ce projet. Parce que dans tous les pays du monde, je m'étais référé à la volonté de François Mitterrand en 1981 quand il a été élu. La première des choses, c'était de faire une programmation sur 20 ans pour passer de l'analogique au numérique. Donc aujourd'hui, la France est ouverte à plus de 100% et même malgré ça, le gouvernement qui vient continue toujours à investir dans le secteur de l'économie numérique. Donc il y a un problème de volonté politique, il y a un problème de savoir qui fait quoi, quand et comment. Donc le dernier article que j'ai publié le 16 octobre l'année passée, juste après l'inauguration de l'interconnexion, j'ai intitulé bilan du projet d'interconnexion de la République démocratique du Congo au réseau sous-marin à haut débit. Donc la notion de service d'exploitation d'exploitant public de la SPT. Donc j'ai interprété la loi 013/2002 du 16 octobre 2002. Cette loi n'a jamais été appliquée intégralement telle qu'elle a été publiée par l'ordonnance présidentielle. Donc il y a le député au congé qui est le législateur. Je pense qu'il faut qu'on arrive à faire une clarification dans la gestion entre l'autorité de FITEL et
l'organe technique qui est là.
L'autorité technique qui est maître
de l'œuvre. On va revenir à vous, ingénieur Gachaman. Il y a beaucoup d'auditeurs qui appellent pour ce débat. Il est intéressant et important aussi parce qu'il en va de la gestion de deniers publics, mais aussi du développement du pays sur les plans de cette économie numérique. Ingénieur Xavier, vous nous appelez des Cupites dans la province de Bandundu. Bonjour. Ingénieur Xavier, vous êtes avec nous, bonjour.
Bonjour, Kabil, bonjour à l'invité. Bonjour, c'est le journaliste.
Voilà, allez-y, vous avez suivi les uns et les autres, nous avons besoin d'avoir des petites solutions pour améliorer, qu'est-ce qui doit être fait?
Bon, normalement, moi, personnellement, je suis ingénieur entrepreneur. J'ai gagné les marchés de ces câbles fibre optique. J'ai travaillé de Kinshasa jusqu'à Lubumbashi. Alors, nous avons respecté des normes techniques. On travaillait avec les Chinois qui étaient rigueurs sur le chantier. Mais les problèmes qui jusque là, c'est regrettable, puisqu'il n'y avait pas une mission de contrôle efficace. Nous laissons travailler seul avec les Chinois. Il y a des fois sur le chantier, il y avait des bagarres, des problèmes, beaucoup de problèmes. Il n'y avait même pas une mission de contrôle pour départager la situation. Moi, une fois, comme ça, je suis allé au bureau pour retirer les salaires pour les ouvriers.
Alors, oui, ingénieur, vous avez travaillé sur le projet Bandundu jusqu'à Kinshasa, jusqu'à Lubumbashi. Mais est-ce qu'aujourd'hui, il y a les ouvrages, les installations, les câbles qui est parti de Kinshasa jusqu'à Lubumbashi et les gens sont connectés parce que vous avez travaillé sur ce projet?
Bon, nous avons travaillé les câbles, bon, il n'y a pas encore de connexion, puisque jusque là, on n'a pas encore terminé à travailler les cabines de transformation. Je crois que les Chinois sont en train de travailler, et dans 2 mois, peut-être, ils vont finir avec les cabines de transformation. Dès que fini, peut-être à ce moment-là, on pouvait, et lancer la connexion.
La connexion, voilà. Mais vous avez évoqué la faiblesse dans les travaux que vous avez faits. C'était le fait qu'il n'y a pas eu de contrôle sur terrain des suivis pour savoir ce que vous étiez en train de faire avec le Chinois. Merci beaucoup. Nous avons Kasonga qui nous appelle des Kolwezi dans la province du Katanga. Kasonga, vous êtes avec nous. Bonjour.
Bonjour, monsieur. Je m'appelle, je fais tous les unités de la radio au Papi depuis Kolwezi.
Oui.
Oui, je voulais un peu poser. J'ai deux préoccupations au monsieur le ministre Kinsé Moulumba.
Oui,
avant de débuter, je voulais d'abord saluer d'abord à monsieur Jouji, monsieur Jusse Jouji, et puis Kolwezi. Je voulais poser des questions un peu au ministre Kinsé Moulumba. Par rapport aux installations de fibres optiques qu'il a installées ici chez nous, à la province de Lualaba, ici à Kolwezi, qu'est-ce que pense monsieur Moulumba? Jusqu'à tel point, nous avons vu des Chinois qui bambinent sur les routes nationales ou internationales, mais jusqu'à tel point, on ne sait pas. Nous voyons des correspondants collégiens mais c'est dans la ville qui exploite toute la République démocratique du Congo, qui échoue de produire un peu de fruits sur le 3G plus. Ça, qu'est-ce que M. King et Lumumba pensent pour nous aujourd'hui, nous les Congolais,
voilà.
De la promesse de là-bas.
Okay.
Deuxième préoccupation, mais je voulais demander par rapport au ministre King et Lumumba, j'aimerais savoir où serait le sujet indien actuellement et le sujet congolais qui avait volé les 300, les 3 000 dollars.
Les 3 millions de dollars. Voilà. Et d'ailleurs, le parce que le député, là, il pourra nous dire, on va lui donner la parole directement. Les sujets indiens, selon le rapport de la commission d'enquête, il a disparu. Il n'avait que. Et il y a quelqu'un d'autre qui a touché, qui n'avait qu'un permis de conduire. Et puis, il a disparu en termes d'argent. On revient à vous directement, Emery Okundi. Vous avez suivi les uns et les autres. Et d'ailleurs, ingénieur Kabeya, avec qui vous avez déjà travaillé autour de ces sujets, dans l'émission, je crois bien, dialogue entre Congolais, on ne va pas s'éterniser quand même dans les accusations parce qu'on a déjà accusé, mais on doit quand même ouvrir une brèche pour savoir ce qui doit être fait. Et c'est en termes de recommandations. Il y a beaucoup de choses à aborder dans ces questions. Un peu rapidement, placer les mots parce que vous avez vu, souhaité intervenir quand ingénieur Kabeya est en train de parler un peu rapidement. Pour qu'on écoute l'ingénieur et Bernard qui est à Kinshasa.
Et très bien, merci. Je voulais tout simplement dire que le montant de 5 millions, c'est à peu près l'estimation de la construction de points d'atterrage.
Mm-hmm.
Parce que vous savez, la SPT a consenti près de 12 millions de dollars. Le gouvernement avait aussi mis de l'argent, mis le paquet, mais le point d'atterrage n'était toujours pas terminé. Et pourtant, avec 5 millions maximum, on devait depuis très longtemps terminer la construction de ces points d'atterrage. Et donc, les 5 millions, c'est pour la construction du point d'atterrage. Il y a le financement d'Exim Bank au Tchad qui a prêté à la République un crédit, donné à la République un crédit de l'ordre de 32 millions
toujours
de dollars.
Pour le même
pour
problème.
La construction maintenant du câble Kinshasa-Mwanda.
Mm-hmm.
Et le ministre l'a dit. Mais Kinshasa-Mwanda, mais ça fait près de 610 kilomètres. Lorsque vous prenez rien que le financement d'Exim Bank, 32 millions de dollars, vous divisez par 610 kilomètres, mais on facture la République à la hauteur de 52 000 dollars le kilomètre pour un câble qui n'est pas approprié. C'est là tout le problème.
Mm-hmm.
Et c'est ce qui prouve qu'il y a détournement en suffisance. Il y a détournement éloquent.
Et après les enquêtes Kalala, on ne trouve pas où se trouve l'Indien.
Revenons à M. Kalala. La commission d'enquête le dit très bien à la page 14. Ils disent, quant à M. Kalala Matadi Carlos, on l'appelle Carlos, connu seulement par M. Muongo. M. Muongo est directeur du cabinet du ministre de la décentralisation.
Et donc, il connaît là où se trouve Kalala.
Voilà, c'est ça, c'est le rapport de la commission d'enquête. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est le rapport de la commission d'enquête.
Patrick M. Muongo, c'est l'ancien DG de la SPT.
Effectivement.
C'est-à-dire que le travail de la commission doit encore continuer un peu rapidement pour qu'on écoute l'ingénieur Kachama. Oui.
Effectivement, ce travail doit continuer et la justice devra aussi faire son travail. Est-ce que vous savez, rien qu'avec ces rapports, la justice est pédophile, c'est-à-dire.
Mm-hmm. Hein? Et c'est ça aussi la responsabilité au niveau de la justice.
Exactement.
Et l'Assemblée nationale n'a pas d'autre voie d'aller faire pression parce que chaque pouvoir est indépendant. Dès que le pouvoir est saisi, il n'a qu'à faire son travail sans attendre qu'il y ait des pressions.
Non, chaque institution devra normalement faire ce qui est dans sa compétence.
Mm-hmm.
C'est-à-dire, nous avons le rapport au niveau de l'Assemblée nationale. Et la plénière a décidé que nous puissions améliorer les recommandations, mais en ce qui nous concerne, il faut que ces gens qui sont connus, qui ont détourné l'argent de l'État, soient déférés devant
la justice. Voilà. Ingénieur Kabeya Gachama, vous avez suivi le point. Vous avez posé les diagnostics par rapport aux faiblesses même de lois, des responsabilités. Mais alors, eu égard à ce qui a été déjà fait avec toutes ces faiblesses, mais parce que le projet doit continuer, il faut qu'il soit portable pour la RDC. Qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil aujourd'hui, vous qui êtes un ancien de l'ex-OCPT? Qu'est-ce que vous pouvez rapidement aussi donner comme conseil sur les plans techniques pour la réussite de ces projets?
Écoutez, Pierrot, là, je viens de suivre le correspondant de Kikouk. Je suis resté un peu ébahi. Les Chinois exécutent ce projet dans la gestion, dans le système de management projet, Les Chinois sont là comme de maître d'ouvrage délégué qui exécute ce projet sous la responsabilité de maître d'ouvrage qui est le CPT. Mmh. J'aurais souhaité avoir la réponse des responsables de le CPT pour savoir qui pilote ce projet du côté de la République démocratique du Congo. Parce qu'on ne peut pas laisser les maîtres d'ouvrage délégués et exécuter le projet sans qu'il y ait un contrôle du maître d'ouvrage, du maître d'œuvre, parce que le maître d'ouvrage a émis le souhait de mettre en place ce projet, n'ayant pas les compétences techniques nécessaires, il s'appuie sur le maître d'œuvre. Donc, le CPT. J'aurais souhaité avoir une réponse de responsable de l'OCPT pour savoir qui pilote le projet du côté de la République démocratique du Congo pour suivre jalon par jalon l'exécution de ce projet. C'est le seul conseil que je peux demander et je sais que les points que j'ai relevés dans mon article sur le bilan de l'interconnexion, le projet n'est pas managé d'une manière professionnelle. Mm-hmm. On ne sait pas qui fait quoi, comment et quand, et on n'a pas de contrôle sur l'exécution des différents jalons du projet. C'est tout ce que je peux demander aux responsables, à quand même, on ait un peu la conscience, on aime un peu ce pays-là, on arrive à s'assumer, non pas à se faire humilier tout le temps. Le Congo a suffisamment de compétences, mais malheureusement, notre stupidité et notre attise à vouloir s'enrichir trop vite, c'est que nous sommes les ridicules du monde aujourd'hui qui ne voient que l'intérêt matériel et non pas l'avenir du Congo de demain.
Et d'ailleurs, vous l'avez dit, nous vous disons merci pour ce message d'interpellation, ingénieur Kabeya Nkashama. On pourra revenir, ce n'est que le début, les sujets importants. Nous l'avons accompagné depuis la fin du projet fibre optique dans Parole aux auditeurs. Il y a eu changement à la tête de l'ex-OCPT, la Société Congolaise des Postes et Télécommunications. Il y a de nouveaux dirigeants. On pourra bien sûr voir comment, quand tout ça sera calmé, revenir maintenant sur le management de ces projets avec le nouveau dirigeant, mais du moins avec l'ancienne équipe, y compris les ministres. On a eu beaucoup d'émissions autour de ça, nous avons accompagné, on a relevé toutes ces faiblesses, mais aujourd'hui on se rend compte qu'il faut encore plus revenir parler et clarifier la situation pour que les projets puissent réussir. On va écouter le dernier auditeur de cette émission, c'est Bernard qui est ici à Kinshasa. Bernard, vous êtes avec nous, bonjour.
Bonjour, messieurs journalistes, bonjour Radio Capi. Et je salue aussi l'honorable député. Mmh. Et puis, j'ai bien entendu l'honorable député quand il a parlé des câbles inappropriés pour le lancement d'un fibre optique. Alors moi, je suis expert en marché public. Et je me suis posé la question, est-ce que ce projet-là a été bien suivi de le début? Est-ce que le marché a été lancé? Parce que le marché, à partir de 1 million de dollars, il faut qu'il soit un marché, un appel d'offres international. Mm-hmm. Est-ce que ce marché a été fait une large diffusion au niveau des journaux, de la place, et même au niveau de la télé, disons, des radios, des télévisions? Je me pose la question, est-ce que quand avant que le fameux touriste indien soit payé, est-ce que les dossiers avaient suivi des procédures normales comme nous faisons d'habitude, parce que je suis fonctionnaire d'État, je fais que ça, je fais que le marché public. Est-ce que le dossier a été réellement suivi jusqu'à atteindre la primature, parce que l'autorité approbative, c'est le premier ministre, mm-hmm. et les ministres des tutelles, dans le ministre des paix scientifiques. Est-ce que ce dossier-là a pris de secouilles normales jusqu'à arriver au niveau de
PMA? Voilà, et ça, c'est la question vraiment importante, Bernard, que vous posez. Vous êtes spécialiste en marché public, hein, vous êtes un fonctionnaire de l'État. Est-ce qu'un individu, comme que ce soit Kalala, Carlos, que ce soit l'Indien, avec qui n'avait que comme référence un numéro de téléphone, et Kalala, qui n'avait comme référence qui est un permis de conduire, je dis fort que dans ces conditions, on est vraiment passé à un appel d'offres international avec un dossier bien défendu, mais il y a des faiblesses. Le député l'a dit, on lui donne la parole pour conclure, qu'il y a eu beaucoup de faiblesses, mais la population veut d'un côté expliquer, qu'on clarifie la situation, mais d'un côté, que la technologie arrive jusqu'au bout et que la RDC vraiment se retrouve dans ses concerts, comme l'a dit le ministre Kinshasa tout à l'heure, qu'il y a aujourd'hui l'amélioration quand même au niveau de Kinshasa ou au niveau des provinces à travers les réseaux de téléphonie cellulaire qui passent par où les gens accèdent à Internet, mais on voudrait voir tout cela aller un peu plus de l'avant. Et bien, Okundi, pour terminer cette émission, on sait que le débat, il est vraiment passionnant, mais alors, quelle note d'espoir les auditeurs peuvent garder autour de ce dossier qui est à l'Assemblée nationale, mais aussi prochainement, on espère, dans les cours des tribunaux?
C'est l'application stricte de lois qui nous régissent, Pierrot. Nous avons de bonnes lois, mais qui souffrent dans leurs applications. Nous devons appliquer scrupuleusement les lois de la République. En ce qui concerne, par exemple, les passations des marchés. Mais Bernard venait de le dire tout de suite. Et il se pose des questions. Est-ce qu'il y a vraiment, on a appliqué les lois en la matière? Est-ce que les procédures ont été suivies? Hein, vous voyez? Et donc, c'est l'application des lois de la République. Mettre fin à l'impunité qui est érigée aujourd'hui en mode de gouvernance. Parce que même ce que l'ingénieur Xavier a soulevé, la construction de la fibre optique Kinshasa, Kasumbalesa, via Bandunduville. Mais là aussi, il y a surfacturation. Le crédit alloué à la République est de l'ordre de 220 millions de dollars américains. Nous avons affaire à peu près 2500 kilomètres. Lorsque vous divisez, on facture la République à la hauteur de 88 000 dollars le kilomètre. Et donc, vous voyez comment la République, l'argent de la République est en train d'être consommé par des gens, par des particuliers comme des cacahuètes. Et donc, nous devons mettre fin à l'impunité. La justice dans notre pays ne doit pas être une justice figurante. Elle doit, en tout cas, se saisir des dossiers pareils, des détournements, pour que les auteurs de ces détournements, en tout cas, subissent la rigueur de nos lois.
Merci beaucoup, Emery Okundi, vous êtes député national. Vous avez initié en son temps la question orale avec débat autour de ce dossier à fibre optique. Merci à tous ceux qui sont intervenus dans ce débat. Ce n'est pas la dernière fois où on reviendra encore parce que les travaux fibre optique, ça continue. Nous disons merci à l'équipe qui nous a aidé à produire cette émission. Jir Lungembo était à la coordination. Julie Fais à la réalisation et Jean-Claude Chala à la mise en onde. Puis Roy Lamy, je vous la présenter sous la supervision de Léonard Moulamba. Vous allez retrouver Parole aux auditeurs sur www.radiocapi.net. Au revoir.